ça ira. Les aristocrates, on les pendra.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption.
Est-ce que vous mangez les riches?
Alors, il y a ici de l'extrême gauche, des mecs des banlieues, des syndiqués, des papis, même des touristes pris dans le truc.
Vous êtes ici chez les salopards, hein? C'est admis.
On va rester groupés, ça va bien se passer.
La chronique de Maël sur Divergence.
Bonjour à toutes et à tous, c'est une nouvelle des plus choquantes qui a secoué la France, que dis-je, le monde, ce lundi 19 janvier. Un homme politique n'a pas tenu sa parole.
Mais quoi ? Mais quoi ?
Et oui, je sais que c'est choquant, que vous allez avoir du mal à vous en remettre, mais c'est bien vrai, cet homme, ce traître, c'est Sébastien Lecornu. L'actuel Premier ministre, pour combien de temps encore cela reste à établir, s'était engagé lors de sa seconde nomination à ne pas jouer la carte de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire passer le budget 2026. Sébastien voulait en effet opter pour la voie du dialogue, établir un lien de confiance avec les députés de l'Assemblée nationale.
Sérieux, c'est les nerfs.
Mais comme Lecornu est un macroniste, c'est bien évidemment un menteur de première, sourd au refus des élus et de la nation qui ne veut qu'une chose, avoir le dernier mot. C'est donc avec regret et un petit peu d'amertume, pour reprendre ses mots, que le Premier ministre a décidé de s'affranchir de la démocratie, ce qui semble être, au même titre que la galette des rois sans fève et un casier judiciaire épais comme un parpaing, une véritable tradition pour la Macronie qui n'en est qu'après tout qu'à son 25e recours à l'article décrié de la Constitution. Pour les nouveaux du fond de la classe, je rappelle que sa prédécesseuse à la vapote, Elisabeth Borne, a fait passer moult textes grâce à cet article, ce qui lui a valu le doux surnom de Miss 49.3, surnom qu'elle revendiquait avec le sourire, comme si elle ignorait que ça faisait d'elle une sacrée poufiasse.
Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution...
Grosso modo, voilà un aperçu du déroulé de la procédure. Lecornu a engagé sa responsabilité sur le texte du budget, ce qui signifie que les députés vont pouvoir décider ou non de son maintien au poste de Premier ministre en votant ou non une motion de censure. Si cette motion de censure obtient au minimum 289 voix, alors le gouvernement et le Premier ministre sont déchus. Et dans le cas contraire, le texte est adopté. Le suspense est donc à son comble, nouveau gouvernement ou nouveau piétinage du peu de démocratie qu'il nous reste. Update à venir. Côté médias, tout va bien dans le meilleur des mondes, puisque l'animateur Jean-Marc Morandini a été définitivement condamné par la Cour de cassation à une peine de 2 ans de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende pour corruption de mineurs. Le monsieur a envoyé des messages à connotation sexuelle à des adolescents entre 2009 et 2016. Vous et moi, d'emblée, on se dit « bon ben voilà, hein, finito la télé, on va pas laisser un pédophile à l'antenne comme si de rien n'était ». Eh ben, vous êtes sacrément naïfs. Morandini bosse sur CNews, aka la chaîne de Bolloré. Et pour le fervent catholique qu'est Bolloré, la pédophilie, c'est un hobby comme un autre. Il a fait savoir qu'il comptait bien garder Morandi merde dans ses rangs, parce qu'après tout, pourquoi pas. D'après mes sources, il réussit à contacter Dominique Pellicot et Jonathan Daval pour leur proposer de rejoindre son équipe d'animateurs de choc. Pascal Pro, Elisabeth Lévy, Geoffroy Lejeune, c'est tout bonnement l'élite du PAF, les mousquetaires de la cour du roi, les fines fleurs du bouquet.
Champion !
Tant qu'on parle de Pascal, notre cher et tendre s'est lâché à l'antenne le 13 janvier dernier. Il doit sentir que les digues ont cédé depuis un bon bout de temps, parce que c'est vrai qu'il enchaîne les sorties hallucinantes d'islamophobie,
mais non !
De sexisme,
mais non !
Ou d'homophobie,
mais non !
Mais cette fois-ci, c'était de la poésie raciste à l'état pur.
Manifestement, les policiers font leur travail et les gens en face sont blancs. Vous voyez, et c'est... Non, mais c'est important de le dire, parce que c'est pas facile pour les policiers. Voilà, ils sont obligés de s'interposer en plus avec des gens de qui ils partagent parfois même les convictions ou
les origines.
Oui, puis même les convictions, les valeurs. Et ils font leur job, les policiers. Et croyez-moi, c'est pas facile pour eux. Et c'est ça qu'il faut dire, parce qu'il y a de la violence, bien sûr, qu'il y a de l'agacement, il y a de l'énervement quand on est comme cela sur place.
Voilà, les policiers savent faire leur travail de tabassage, même quand les gens sont blancs. Ça, c'est tellement dingue pour Pascal, qui se sent obligé de le souligner, il ne tape pas que les Arabes. Il leur arrive aussi de bousculer légèrement les agriculteurs. Bon, globalement, tout ce qui est manifestation, ils aiment pas tellement, alors que bon, c'est quand même un droit fondamental dans les démocraties. Mais sommes-nous encore en démocratie? Ça, c'est un autre sujet. Alors bien sûr, Pascal Pro s'est défendu en argumentant que c'était un extrait sorti de son contexte, mais si on redonne ce fameux contexte, ben ça change pas grand-chose. Le fameux contexte, c'est un échange avec Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, mort pendant une interpellation policière en 2016. Elle intervenait pour parler du racisme systémique de la police face à un plateau principalement composé de blancs privilégiés, pour qui c'était absolument inentendable. Et ça, malgré les chiffres qui montrent bel et bien qu'il y a du racisme dans la police. Je vous conseille fortement l'analyse de Clément Viktorovitch sur le sujet, qui l'explique bien mieux. Moi. Faisons un petit tour côté société. Le journaliste québécois Hugo Meunier a fait une drôle d'expérience dans le cadre d'un documentaire sur les violences sexistes et sexuelles. En fait, lui et sa collègue Chloé Giroux se sont posé cette question : l'ignoble affaire des viols de Mazan aurait-elle pu se produire au Québec ? Pour répondre à cette question-là, ils ont eu l'idée de poster une annonce, fausse évidemment parce que sinon c'est plus un documentaire, sur un site québécois proposant de violer sa femme endormie sans qu'elle ne le sache et donc sans son consentement. En quelques heures, Hugo Meunier a reçu 105 réponses d'hommes intéressés, dont seulement 3 qui soulèvent la question du consentement de la femme.
Oh, comme c'est bizarre! Oh, alors!
Alors, qu'est-ce qu'il faut tirer de cette enquête? Que les hommes sont des merdes? Assurément. Que des Dominique Pellicot, il y en a à l'appel dans le monde, sans aucun doute. Mais il y a aussi une remise en question sociétale à avoir. À quel point le monde est ancré dans un patriarcat malsain pour que des hommes puissent sauter sur l'occasion de violer une femme sédatée. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, l'affaire Mazan n'est pas si hors du commun. Dans une chronique pour un épisode de L'Autruche consacré à l'après Mazan, j'ai parlé du mythe du monstre, selon lequel les agresseurs seraient des marginaux hors normes. La réalité, elle est bien différente, parce que le viol et l'agression sexuelle, ce sont pas des comportements hors normes. Ils sont ancrés dans notre société, encouragés par ce qu'on appelle la culture du viol. Et cette culture du viol, elle est partout. Dans la publicité, quand les concepteurs se sentent obligés de mettre des femmes nues pour vous vendre un poulet ou un parfum. Dans les lois, qui ont mis des décennies à ôter de leur vocabulaire la notion de devoir conjugal qui empêchait de reconnaître le viol par époux comme un vrai viol, parce que vous comprenez, les bonnes femmes, elles doivent satisfaire leurs appétits de mari. Dans le blâme des victimes, qui n'avaient pas à s'habiller comme ça, boire autant, sortir seule le soir, vivre en fait. Et aussi dans le système policier, qui refuse de prendre les plaintes des victimes. Et également dans le système judiciaire, qui rend presque impossible la condamnation des auteurs d'infractions sexuelles, malgré des preuves toujours plus difficiles à obtenir. Dans le monde culturel, qui continue de programmer et de diffuser des artistes qui ont commis des viols et des agressions sexuelles, du genre Harry Habitant, Gérard Depardieu, Slimane, Roméo Elvis, L'Homme Pâle, PPDA, Naps et j'en passe. Comment rendre le viol inimaginable pour un homme lorsque ce dernier voit que des violeurs, des pédophiles, des agresseurs continuent leur vie tranquillou bilou comme si de rien n'était? Ça, ça envoie un message quand même problématique. Tu peux violer en toute sérénité et poursuivre ta carrière en toute détente, alors pourquoi se priver? L'enquête d'Hugo Meunier et de Chloé Giroux, tout comme le maintien de Morandini à son poste malgré sa condamnation pour pédophilie, ça montre à quel point le combat est encore long pour qu'on arrête de banaliser les crimes sexuels et la culture du viol. Dans un monde normal, le racisme, l'homophobie, le sexisme, l'antisémitisme et l'islamophobie sont des crimes qui entachent la réputation et jettent la honte sur les coupables. Mais dans notre monde dystopique, c'est une qualité sur le CV, au même titre qu'un diplôme dans une grande école. Alors moi j'emmerde ce monde, j'emmerde les artistes qui ont l'audace de commettre des crimes sexuels et d'en plus vouloir garder la lumière au nom de leur soi-disant génie, et j'emmerde la justice et la police qui rendent invivables les rares procédures pour les victimes. Enfin bref, vivement à la révolution féministe. D'ici là, soyez curieux, restez révoltés et brûlez le patriarcat. Bisous.
Tous les hommes et tous les mêmes. Macho métu, monde de ma vie est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine. Que tu le mérites, avez de la chance que vous aime. Dis-moi merci, rendez-vous.